Ils parlent fort, ils sont laids, ils sont pathologiquement désinhibés, ils sont grossiers, ils se prennent constamment en photo, ils pique-niquent dans les pinèdes, pissent dans l'Adriatique, innombrables, invincibles. Bienvenue, bienvenue chez nous. Quelques éclats de rire, des meurtres tragiques, l'histoire d'une amitié, d'un départ puis d'un retour à la terre natale et une charge implacable et complètement décomplexée contre le tourisme de masse. Voilà quelques éléments du nouveau roman de Jérôme Ferrari, Nord Sentinelle, sous-titré « Conte de l'indigène et du voyageur ». Bonjour Jérôme Ferrari.
Bonjour.
Les grossiers désinhibés, etc., ce sont vos mots, autant dire qu'aucun touriste ne résiste à votre charge.
Alors, ce sont mes mots, parce que c'est moi qui les ai écrits, ça je ne peux pas le nier, mais ils ont été placés dans la bouche de mon narrateur, qui est tout particulièrement exaspéré par le tourisme et qui est constamment, tout au long du roman, d'une virulence extrême.
On peut le comprendre. C'est assez agaçant, ce tourisme de masse, tel que vous le décrivez et tel qu'on peut le voir.
Là où le narrateur prend le problème sous un biais, j'allais dire psychologique, ce qui lui vaut d'insulter copieusement l'ensemble des tourismes dans sa masse, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est de le prendre dans son aspect de système économique auquel il n'est pas vraiment possible de faire grand-chose. Et le « il » de généralité qu'il emploie dans le passage, c'est évidemment parce que quand le tourisme dépasse une certaine quantité, les individualités sont complètement noyées dans une masse depuis laquelle ils sont absolument indiscernables.
Alors vous écrivez où le narrateur dit des choses terribles sur la catastrophe, le mot est utilisé, du tourisme de masse, qui laisse les villages et les maisons vides comme après le passage de la mort noire, c'est-à-dire comme si c'était la peste, une peste du 21e siècle. Mais dans le roman, alors est-ce le narrateur, est-ce vous, tout le monde est plus ou moins responsable. Les pauvres avec leur envie, les riches avec leur mépris.
Alors, on peut dire que tout le monde est plus ou moins responsable et que personne ne l'est. Je pense que c'est précisément une définition correcte de ce qu'est une situation tragique, en fait. Hein, parce que, de fait, le système économique est comme ça. Il y a des régions qui en dépendent absolument pour vivre. Évidemment, on ne peut pas reprocher aux gens de faire ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie. Et pourtant, ce système auquel personne ne peut grand-chose, il a effectivement, et ça c'est moi qui peux le dire, hein, des effets délétères qui sont connus, renseignés, l'assèchement total du parc locatif pour les gens qui veulent vivre au lieu de venir passer des vacances, et spécifiquement pour les régions qui vivent que du tourisme, comme la Corse. Un décalage atroce entre la frénésie de l'été et le long désert de l'hiver.
Alors, ce que vous dites vaut à peu près pour toutes les régions du monde quant au tourisme de masse, mais en effet, le roman se passe en Corse.
Oui.
Ce point de vue est celui d'un Corse. Vous êtes Corse, donc très attaché à ces paysages, à cette culture, à cette langue que vous traduisez d'ailleurs. Et votre roman se passe là. C'est vrai qu'il y a une situation un peu spécifique de la Corse. D'abord parce qu'elle est minée par le tourisme. En même temps, c'est une ressource essentielle. Et elle rejette très violemment, très fortement, pour des raisons à la fois économiques et politiques, les étrangers, entre guillemets.
Alors, c'est pas si vrai. D'abord, je pense pas du tout que la Corse soit la région la plus mal lotie en matière de tourisme de masse. Moi, j'avais l'impression, n'ayant connu que la Corse comme région touristique, que c'était considérable. J'ai été assez vite détrompé la fois où je suis passé à Dubrovnik, ou sur la place du Duomo à Florence récemment, ou sur la côte espagnole au sud d'Alicante. Il y a pas de... il y a beaucoup de monde, mais on n'arrive pas à ces proportions qui sont vraiment délirantes. Et par ailleurs, je ne pense pas du tout qu'il y ait une hostilité particulière vis-à-vis des étrangers qui soit spécifique à la Corse. Hein. Les mouvements d'exaspération qu'on voit en Europe, là, ils sont d'ailleurs pas... Ouais, j'aimerais pas que ce contresens soit fait pour mon roman, j'aimerais vraiment pas ça. C'est pas du tout des mouvements d'exaspération qui sont faits contre la présence de l'étranger, mais c'est sur ce que ça change à la vie des gens qui sont là, ce qui est tout à fait différent. C'est pas du tout des questions d'immigration, c'est des questions du Airbnb, en fait. Voilà. ce qui est pas du tout la même problématique.
Hein. C'est une problématique, en effet, assez différente. En tout cas, il y a dans votre roman des Corses, les indigènes et des voyageurs, puisque c'est le sous-titre de votre livre, Conte de l'indigène et du voyageur, notamment beaucoup de voyageuses avec qui le narrateur a des démêlés sexuels et assez comiques. Mais il y a aussi l'histoire d'un sultan au 19e siècle en Éthiopie. Et le roman commence comme cela par une histoire, par un conte.
Donc normalement, North Sentinel, c'est censé être le premier volet d'un triptyque, et Conte de l'indigène et du voyageur, c'est le titre général du triptyque.
Donc avec et deux livres à venir.
Normalement. Je fais toujours cette annonce avec une prudence extrême parce que j'en ai pas écrit le premier mot et que pour l'instant c'est juste à l'état de projet. Mais c'est un projet qui est pensé comme ça et qu'il était dès le départ. Normalement, le deuxième tome devrait être consacré à l'exploration et c'est pour ça que je commence le premier pour que les futurs tomes virtuels se répondent autrement que par leur thématique avec la figure de Richard Burton qui est un grand explorateur et polyglotte anglais du 19e siècle qui a traduit les Mille et une Nuits, qui a fait la première traduction non censurée des Mille et une Nuits en anglais, qui a eu une vie qui est un véritable roman, même si ça fait un peu cliché de dire ça, ça c'est la pure vérité, au point que c'est difficile d'écrire un roman sur Richard Burton.
Oui, parce qu'il était tout à la fois explorateur, militaire, diplomate, écrivain, oui, il parlait 29 langues, enfin ouais, c'est
plus
fou.
Que ça, on sait même pas trop, on sait même pas exactement combien. Et c'est le premier aussi à être entré dans Harar, bien que il ait su qu'une prophétie disait que si un étranger, un infidèle, rentrait dans Harar, ce serait la perte de la cité. Et donc ça a dû titiller son sens du défi, et il y a été. Et il est rentré en janvier 1855 et il est parti. Et moi, l'histoire m'intéressait parce qu'elle est paradigmatique de cette espèce de tentation qui est au cœur du livre, de se débarrasser d'un étranger pour les calamités qu'il peut apporter.
Et il est épargné. C'est le début du tourisme. Si on va vite, on
les emmènera. Si violent, oui, voilà.
Alors, pourquoi partir de là avec cette première phrase? Et vous dites que les premières phrases sont importantes dans vos romans, comme dans beaucoup, mais dans les vôtres particulièrement. On raconte encore. C'est la première phrase de North Sentinel.
On raconte encore, c'est une formule que je trouve très 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 belle et qui est le leitmotiv des Mille et une Nuits, puisque quand Scheherazade, chaque nuit, vient de finir une histoire, la première phrase qu'elle dit quand elle a fini l'histoire, avant que le soleil se lève et que l'aube arrive, c'est « On raconte encore au roi du temps que, à Ispahan ou dans un pays lointain ou quelque chose. » Et c'est le début de l'annonce du conte. Et pour moi, c'était très important. Bon, c'est pour ça que le titre général est « Conte de l'indigène et du voyageur », qu'il y ait une tonalité un peu fantastique propre au conte dans ces histoires, même quand elles sont vraiment triviales.
Mais vous aimez le conte? Cette forme vous intéresse?
Ça m'intéresse de l'explorer et je trouve que c'est puissamment poétique, quoi. Et puis il y a aussi une. Pour nous, on a l'impression de voir des choses qui se passent de bric à brac, on passe du coq à l'âne. Et là aussi, je voulais qu'il y ait une forme de diversité de récits dans North Sentinel et que cette diversité de récits ne fasse pas trop perdre de vue ou ne ruine pas, pour dire les choses telles que je les ai craintes, l'unité du roman.
Jérôme Ferrari, on raconte encore votre roman, votre écriture, la Corse après un détour en musique vers la Suisse, avec la contrebassiste et chanteuse Louise Gnobil.
Minuit dans ma vie.
Louise Knobil avec son nouvel album, un EP qui s'appelle Knobizou. Retour en Corse avec le nouveau roman de Jérôme Ferrari, 12 ans après son Goncourt pour le sermon sur la chute de Rome. Alors, j'évoque la Corse, mais jamais le nom n'est écrit, parce que ça pourrait se passer finalement partout. En revanche, le titre même du roman Nord Sentinelle est un peu étrange, et c'est le nom d'une île aussi.
Oui, c'est une île qui est donc située au nord d'un archipel dans le golfe du Bengale. À ma connaissance, c'est la dernière sur laquelle vit un peuple qui s'appelle les Sentinelles. L'île appartient à l'Inde, qui est encore complètement coupée du monde. L'Inde laisse les Sentinelles absolument tranquilles et prévient tous les voyageurs désireux de s'y rendre qu'ils risquent leur vie, puisque les Sentinelles sont extrêmement agressifs et tuent les gens qui débarquent sur leur rivage. Le dernier en date, c'était, je ne sais plus, 2018, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était un évangéliste américain qui voulait leur apporter la parole du Seigneur, dont on a retrouvé le cadavre sur la plage.
Et ça vous tenterait d'y aller ?
Non, pas vraiment, non. J'aime bien laisser les gens tranquilles, surtout quand je risque ma peau à ne pas le faire.
Alors, en tout cas, votre narrateur dans ce roman Nord Sentinelle est corse. Il a quitté l'île, d'ailleurs. Il a voyagé de par le monde pour être autre, dites-vous, et il est revenu. Il y a des similitudes avec votre itinéraire.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est des choses. Prendre des éléments objectifs de ma biographie, c'est des choses que j'avais déjà fait avec le sermon sur la chute de Rome. La seule chose que... Alors, je ne le fais pas pour le plaisir ou par goût narcissique, mais là, évidemment, comme le sujet général est du livre et de la trilogie, c'est la relation à l'autre, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas moi-même vécu loin de France et que j'avais beaucoup voyagé. Donc, ça paraît naturel et puis ça peut faire un pont d'un tome à l'autre. Mais ces points communs biographiques font pas du tout du narrateur un
Jérôme Ferrari.
Non, un double aussi, ou alors peut-être un jumeau maléfique.
Mais quand même, quand le narrateur dit « je n'ai jamais réussi à être étranger à moi-même », est-ce que ça a été votre cas aussi ?
Je pense que, je soupçonne que c'est un peu ce qu'on peut chercher dans le voyage, sortir de soi. En tout cas, par exemple, je suis absolument persuadé que c'était quelque chose que Richard Burton cherchait. Aimait tellement passer pour un Pakistanais ou pour un Turc ou pour un Arabe. C'est quand il y a quand même manifestement un fort désir d'échapper à l'étroite frontière de sa peau. Et c'est un désir qui, bien évidemment, par définition, ne peut jamais être exaucé.
Donc vous êtes corse et vous le restez, où que vous soyez.
Ah ben, on sait même pas tellement qu'on est corse ou qu'on soit ou breton ou ce que vous voulez. C'est que quand on va chez quelqu'un d'autre, on devient pas l'autre. Enfin, on ne peut pas devenir l'autre. Et que si on devenait l'autre par un coup de baguette magique, on serait pas capable de l'apprécier puisqu'on serait l'autre et qu'il y aurait donc plus rien d'exotique à la
situation.
Donc
il faut cette distance absolument.
Et oui, c'est une dialectique compliquée, mais.
Est-ce que vous définiriez Jérôme Ferrari comme un avocat de la culture corse ?
Alors.
Un écrivain de la Corse.
Alors, un écrivain de la Corse et un avocat de la culture corse, c'est pas la même chose, parce que je pense pas du tout que rôle du romancier soit celui de l'avocat, ni d'ailleurs celui du procureur. Il y a pas. Et je pense que c'est vraiment pas du tout assigner une fonction très honorable à la littérature que de la cantonner au blâme et à la louange, quoi. C'est pas du tout ce que j'essaye de faire. En revanche, depuis longtemps, je trouve que la Corse est, si ce n'est mon territoire de fiction exclusif, au moins le principal. Mon ambition a toujours été de la traiter comme ça, comme un territoire de fiction, et pas comme quelque chose de périphérique et de provincial, mais c'est simplement central. Et j'aimerais bien qu'on note pas plus, je sais que c'est un rêve, qu'on note pas plus l'endroit où se déroule un de mes romans qu'on ne le note quand ça se déroule dans le 6e arrondissement.
C'est pour ça que vous ne nommez pas la Corse.
Non, parce que là, je voulais vraiment tenir, raconter des histoires qui, à peu de choses près, auraient pu se passer dans n'importe quel endroit touristique du monde. Mais y a pas, ça n'existe pas n'importe quel endroit touristique. Il faut bien que ce soit un endroit en particulier.
Alors, en tout cas, si l'on parle de la Corse, si on pense musique, on pense toujours tout de suite à Jean-François Bernardini, le fondateur du groupe Imouvrini, qui a été créé voilà plus de 40 ans à peu près, et qui lui est prêt à endosser cette robe d'avocat.
Je crois qu'on est dans un monde, vous savez, où on parle, et à juste titre, du recul de la biodiversité. Et je pense qu'on parle un peu moins du recul de la sociodiversité, c'est-à-dire de la manière d'habiter le monde, de parler le monde, de chanter le monde, de célébrer les appartenances. Il y a cette forme d'urgence qui est une urgence planétaire. Il n'y a pas de lanceur d'alerte pour ça, vous voyez. Il n'y a pas de GIEC pour la disparition des cultures, de ces biens immatériels. Donc il est important de les célébrer ensemble et de voir que c'est un cercle qui est toujours ouvert et toujours plus grand. Acque di lontano, fratelli di qui, sore dell'altro.
Jérôme Ferrari, vous souscrivez à ce que dit Bernardini ou pas ?
Ah bah j'y souscris absolument. Tout à l'heure, je répondais à la question en tant que romancier. Là, il se fait l'écho d'une inquiétude qui a été, il y a longtemps maintenant, l'inquiétude principale de Claude Lévi-Strauss, hein, par exemple. Moi, ça me plaît de penser que la Terre est habitée par des gens qui ne se ressemblent pas, et qui sont divers, et l'uniformisation est une triste nouvelle.
Mais la fragilité des empires ou des cultures, leur possible disparition, c'est d'ailleurs une inquiétude qui traverse votre œuvre. Dans le sermon de la chute de Rome, il s'agissait en partie de cela.
Oui, mais c'est un sujet compliqué, parce que parfois, le passé qu'on essaie de préserver, il est très largement fantasmé. Là, la préservation dont il parle n'est pas d'ailleurs celle du passé du tout, hein, c'est celle
du présent.
C'est très très joliment dit. Moi, Jean-François Bernardini, c'est la voix d'Imouvrine que j'ai commencé à écouter quand j'avais 10 ou 11 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui est n'importe qui pour moi, mais il ne se situe pas sur le passé. Il parle simplement de la diversité des regards qu'on peut porter sur le monde et de la multiplication des images du monde dans ses regards. Et c'est très beau et c'est très juste. Et bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça.
Alors, dans votre roman Nord Sentinelle, Jérôme Ferrari, le narrateur, qui est un peu vous, mais pas tout à fait, est corse. C'est lui qui raconte l'histoire centrale du livre, qui est celle, en fait, d'un Corse qui s'appelle Alexandre Romani. Alors, c'est son meilleur ami ou son cousin ?
Alors, en fait...
J'ai pas trop compris. Je me perds un peu dans les histoires de famille.
Quand je fais la présentation du roman en Corse, tout le monde comprend tout de suite. C'est sur le continent, c'est plus compliqué. Donc, le narrateur a une cousine qui s'appelle Cataline. Et il a un meilleur ami qui s'appelle Philippe. Et Philippe a fait un enfant à sa cousine Cataline, Alexandre étant l'enfant.
Donc il est à la fois cousin et...
Voilà, c'est le meilleur ami de son père, et c'est le narrateur et le meilleur ami de Philippe Romagne, et il se trouve être le petit cousin d'Alexandre, le fils de Philippe et de sa cousine Cataline.
Et c'est un con.
Alors, là encore...
c'est le narrateur qui le dit.
Le narrateur le dit, oui, il le dit, il le répète, mais là encore, hein, comme j'ai signalé tout à l'heure, le narrateur est quand même particulièrement malveillant. Je ne fais pas voler en éclats le suspense en disant, parce que ça se voit à la deuxième ligne, je pense que l'animosité dont il fait preuve pour son petit cousin Alexandre vient surtout du fait que c'est le fils de son ami Philippe, dont il dit aussi pique-pendre et auquel il pardonne surtout pas d'avoir couché avec sa cousine et de lui avoir fait un enfant. Et on comprend bien que lui se serait davantage vu dans cette position-là, si bien que, sans prétendre qu'Alexandre Romagne est un génie incompris, il n'est pas, en tout cas, l'être entièrement détestable et nul dont son cousin fait la description.
Mais c'est quand même un peu un bon à rien. Il est un peu mal à l'aise avec sa vie, avec ses actes.
C'est typiquement,
il a du mal à avoir le bac. Enfin bon.
C'est typiquement le rejeton d'une vieille famille de très grands propriétaires terriens qui n'a pas vraiment à s'occuper pour son avenir d'un point de vue financier et qui, évidemment, s'en trouve assez modestement motivé pour briller à l'école et est plus intéressé par la bringue et les belles voitures que par autre chose.
Et il va donc assassiner, en tout cas agresser à coups de couteau un jeune homme qui est un copain d'enfance lui aussi et qui passe ses vacances dans l'île depuis très longtemps, pour rien en fait.
Pour rien du tout.
Parce que c'est ça le cœur. Hein.
Pour avoir consommé du vin dans son restaurant qu'il n'avait pas acheté dans le restaurant. Et bon, y a d'autres épisodes où Alexandre se sent un peu plus humilié, mais le point de départ est absolument futile et le point d'arrivée est absolument tragique.
Et à partir de ce meurtre, vous faites, Jérôme Ferrari, une sorte de généalogie de la violence, car il y a eu un autre Romani qui a été assassin en 1933, et vous racontez comme ça des actes de violence sur l'île. Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que ce sont des destins ?
Alors, pour moi, le jeune Alexandre, il est vraiment pris dans le mouvement implacable d'un destin auquel... Par ailleurs, il souscrit un peu, il l'aide, hein, le destin. Et moi, j'aime bien avoir des personnages qui soient à la fois parfaitement innocents et quand même un peu coupables de ce qui leur arrive. Et ce destin, c'est d'une certaine manière la mythification de la violence virile dans laquelle il grandit et qui fait que, pour lui, l'affront qu'il a subi doit appeler un certain type de réponse, alors même que lui n'a pas vraiment les épaules pour ça et qu'il agit, je dirais, plus conformément à la conformité qu'il s'imagine devoir à une forme d'image que par vraiment désir spontané de
cette forme d'image, c'est quoi ? C'est le code de l'honneur ?
C'est ça, c'est le recours à ce qui va être considéré comme de la violence légitime, hein, en quelque sorte, hein, pas étatique, mais privée. C'est l'incapacité à supporter que mon honneur puisse être bafoué par le moindre tâche, même ridicule, même presque invisible. Et pour moi, c'est le désir de ressembler à la lignée de ses ancêtres, auquel finalement, il ressemble vraiment absolument pas.
Et c'est le propre d'un honneur corse, d'une société corse, ça, ou c'est le propre de ce personnage de votre roman ?
C'est évidemment le propre du personnage du roman, mais le propre des personnages, c'est aussi d'évoluer dans une société qui met en avant certaines valeurs, alors qui sont des valeurs pas simplement corse, mais je pense assez largement la Méditerranée, hein, tant orientale qu'occidentale. Je ne suis pas certain qu'un lecteur sarde ou sicilien, ou je ne sais pas, peut-être même chypriote, il voit là quelque chose de particulièrement exotique.
Alors il y a, Jérôme Ferrari, dans votre roman, un personnage de policière qui est confronté à tous ces crimes qui se sont déroulés dans son territoire, sur cette île. Et au début de sa carrière, elle est amenée à interroger un homme qui a tué toute sa famille, son frère, sa belle-sœur, son père, sa mère. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman qui est un extrait assez terrible.
Séverine Bogossian aurait voulu croire qu'il lui cachait quelque chose, un secret trop longtemps enfoui dans les gouffres obscurs de son cœur blessé, le martyr d'une enfance brisée qui aurait soudain réclamé vengeance sous le soleil de juin, une ancienne trahison impossible à pardonner dont le douloureux souvenir aurait attisé le brasier de la fureur, quelque chose, n'importe quel mobile qui pût être rationnellement mis en relation avec la sauvagerie de ce massacre. Mais l'homme qui la regardait ne cachait rien. Il avait exposé ses raisons, si dérisoires fussent-elles, avec une entière sincérité. Séverine Bogossian aurait préféré ne pas les entendre. Elle aurait préféré croire que ce qui s'était passé n'avait pas plus de sens que la collision d'un astéroïde, un séisme ou un raz-de-marée, le déchaînement aveugle d'une puissance naturelle dont on pouvait éventuellement se protéger, mais qu'il était inutile de chercher à comprendre. Une puissance innocente et mortelle, pure, sans volonté, sans cruauté ni remords. Dans sa longue et épuisante fréquentation du crime, Séverine Bogossian n'a jamais cessé d'être sidérée face à la disproportion presque systématique entre les actes dont elle était le témoin et les raisons qui les avaient fait advenir, comme si la chute virevoltante d'une feuille d'automne creusait dans le sol un cratère. Une disproportion si incommensurable que Séverine Bogossian a toujours eu le sentiment, en découvrant un mobile, non d'avoir obtenu une explication propre à satisfaire aux exigences de la raison, mais bien au contraire, d'être à nouveau plongée tout entière au cœur d'une énigme qui revenait la submerger et la faisait suffoquer, qu'elle ne résoudrait jamais.
Sentinelle, Jérôme Ferrari, c'est assez glaçant ce que vous avez lu là, parce que ça veut dire que les mobiles n'éclairent rien et que le romancier que vous êtes ne peut même pas savoir, comprendre, dire ce qu'est cet acte de sauvagerie, ce secret, l'assassinat.
Ce qui inquiète et fascine le personnage de Séverine Bogossian, c'est quelque chose qui évidemment m'inquiète et me fascine aussi, à savoir la disproportion effectivement entre des mobiles absolument dérisoires et les conséquences catastrophiques qu'ils sont capables d'entraîner et qui, je crois, dans un certain sens, défient vraiment la raison. Et dont je crois aucune explication psychologique ne peut venir à bout. Moi, c'est le sentiment que j'ai souvent eu devant des faits divers, et j'ai jamais été très satisfait par les explications d'ordre psychologique. On a là quelque chose qui résiste dans son irrationalité maléfique, je dirais. Là, il s'agit d'une espèce de crime collectif où quelqu'un s'est énervé et a tué toute sa famille. Ça se passe pas en Corse, elle est dans une autre région. Ça date du tout début de sa carrière. Et du coup, dans ces conditions-là, quand on apprend le mobile, au lieu d'avoir une explication, on a quelque chose qui défie encore plus la raison.
Alors, je vous ai demandé de lire ce passage, mais j'ai hésité car il y a plein de moments dans le livre qui sont assez extraordinaires. Il y a notamment la scène du meurtre d'Alban par Alexandre Romani, qui est une lente chorégraphie de la violence. Mais en fait, la scène fait deux pages et c'est une seule phrase.
C'est possible.
C'est sûr.
Oh, je vous fais pleinement confiance, bien sûr.
Et puis, il y a aussi la mort du père, ou plutôt la scène qui précède la mort du père, quand le narrateur se laisse embarquer par une touriste australienne qui vous bascule sur son lit ou dort une copine de voyage et vous débattez.
Qui le bascule sur son lit? Vous avez dit qui vous?
Qui le narrateur, pardon.
Je tiens absolument à mon indépendance d'auteur et je n'ai été bousculé par aucune australienne sur aucun lit.
En tout cas, le narrateur se débat avec son pantalon, les capotes, les deux femmes, etc. Là encore, c'est une scène très chorégraphique et c'est à hurler de rire. Vous aimez les phrases longues, vous aimez cette volonté de nous faire entrer dans chacun des mouvements, dans un déroulé de la scène qui fait qu'on ne se décolle pas de ce qui s'écrit.
Il y a pour moi une nécessité de la phrase longue qui n'est pas une nécessité formelle, esthétique ou qui ferait que les phrases longues sont mieux que les phrases courtes, mais à un moment il me semble que quand les choses s'enchaînent et surtout quand elles s'enchaînent de manière catastrophique, le point n'a pas sa place parce qu'on doit être pris dans une espèce de tourbillon comme le personnage est pris dans le tourbillon des événements, mais la phrase doit en rendre compte et donc c'est un peu guidé par le fond de ce qui se passe davantage que par des choix esthétiques. Il n'y a pas vraiment de phrase très très longue par exemple dans le passage que j'ai lu parce que c'est un passage réflexif qui nécessite sans doute des pauses et pas une sorte de fluidité continue comme dans les scènes où tout s'emballe.
Mais en tout cas, vous aimez les changements de rythme, vous aimez les changements de genre, l'éclat de rire est possible. Vous êtes d'accord avec cette scène avec l'Australienne? Vous avez ri en l'écrivant?
J'ai souri. Mais c'est sans doute le roman dans lequel l'humour tient consciemment pour moi la plus grande place. Et j'y vois... Moi, ce que je cherche là-dedans, c'est la vertu esthétique de la confrontation entre le tragique et le grotesque, en fait. Et puis, c'est un type d'humour spécifique, parce que c'est un humour qui est basé entièrement sur l'hyperbole, l'exagération, le grotesque, la mauvaise foi, enfin, ce genre de... l'hypocondrie, même. Ce genre de choses. Et j'ai pas conçu les moments d'humour comme des moments de respiration pour le lecteur par rapport à des moments plus difficiles, parce que pour moi, il y a une face grotesque dans le tragique, y compris, d'ailleurs, dans le côté absolument dérisoire des mobiles dont je parlais il y a deux minutes, et une phase tragique dans ce qui est grotesque, et qui ne se montre que quand elles se tiennent et quand elles sont tenues en même temps dans un même mouvement.
Écrire, c'est tisser pour vous? C'est tisser entre ces genres, entre ces narrations, entre ces temps?
Alors, entre les genres, pas toujours, parce que c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait. Par contre, depuis que j'ai commencé à écrire, je n'ai cessé d'écrire des romans qui, malgré leurs différences, sont tous le tissage de différents fils narratifs. Tissage plus ou moins serré, d'ailleurs. Je pense que le roman où le tissage est le plus serré, c'est dans un roman que j'ai écrit en 2009 qui s'appelle Un dieu, un animal, où là, il n'y a même pas de chapitre, en fait. Parce que... Et oui, il y a quelque chose qui relève du tissage, en tout cas. Et le tissage étant pour moi une sous-catégorie de l'art majeur de la composition. Donc, la manière de faire tenir ensemble et de faire résonner harmonieusement ensemble, comme dans un accord, même s'il est dissonant, parfois, des éléments hétérogènes.
La composition musicale.
Ah ben je pense que c'est un peu le terme de composition, c'est le terme le plus transversal dans tous les domaines où l'art s'exerce, dans tous les domaines de l'esthétique. Je n'imagine pas, il ne me vient pas en tête une seule forme d'art qui puisse se dire que la composition n'est pas son affaire. Ni la peinture, ni la musique, ni la littérature, ni l'art des jardins, ni la calligraphie. C'est vraiment le point fondamental qui traverse tout le champ artistique pour moi.
Mais vous êtes musicien aussi?
Je suis très mauvais musicien.
Mais quand même?
Oui. Et j'ai pratiqué les polyphonies corses aussi, qui sont aussi une manière de faire tenir ensemble, de manière parfois harmonieuse, parfois dissonante, des voix différentes.
Merci beaucoup Jérôme Ferrari.
Merci à vous.
Nord Sentinelle est édité chez Actes Sud, et si j'ai bien compris, il y a donc un deuxième puis un troisième livre à attendre pour cette trilogie de contes de l'indigène et du voyageur. Vous avez besoin de beaucoup de temps pour écrire? Le prochain sera quand?
Je ne sais pas, j'espère qu'il s'est passé 6 ans entre mon précédent roman et celui-là. La seule chose que je peux dire, c'est que j'espère, mais très très sincèrement et très très fortement, que ce ne sera pas 6 ans.
J'espère aussi.
Merci beaucoup.
De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Labolo, Laura Pinto à la réalisation. À très vite.